MCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre nouvelle émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Ce programme, je vous l'ai dit tout le temps, a été conçu pour vous permettre de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ, que vous soyez capables de connaître, d'imiter et de pratiquer la parole de Dieu en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Car un disciple accompli, bien sûr, est comme son maître. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série qui sera centrée sur comment devenir un disciple. Devenir un disciple de Jésus-Christ. Et déjà, dès aujourd'hui, nous allons commencer par poser cette question, ça signifie quoi qu'être un disciple de Jésus? Et tout au long de la semaine, on sera en train de toucher à des sujets qui ont pour but de clarifier ce processus de devenir disciple de Jésus-Christ. Pour l'instant, let's teach, grandissons ensemble. C'est quoi être un disciple de Jésus? Pour cela, j'aimerais qu'on lise le texte de Jean au chapitre 1er. Versets 35 à 39. Belle histoire. Jean, chapitre 1er, versets 35 à 39. Voilà ce qui est écrit. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Ils le suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il lui dit, « Que cherchez-vous ? » Il leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu ? » ?»« Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent, ils virent où ils demeuraient. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Ce texte est souvent aimé à cause de cet appel que Jésus leur fait, « Venez et voyez. » Mais souvenez-vous ici, le contexte est que Jean a déjà commencé à parler plusieurs fois quand il voit Jésus passer. Voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu. Les gens se disent, mais pourquoi il dit ça de lui? Cette fois-ci, il voit venir. L'agneau de Dieu arrive. Les gens qui étaient des disciples de Jean, les deux qui étaient déjà disciples de Jean, entendent Jean-Baptiste dire encore ça. Ils ont dit, non, cette fois-ci, il faut suivre ce monsieur. Ils l'ont suivi. Ils ont suivi Jésus. En route, Jésus leur dit, vous suivez pourquoi? Et Dieu, Rabbi, où demeure-t-il? Ce texte, je l'ai choisi parce qu'à l'intérieur se trouvent deux mots qui définissent très bien le contexte de ce qu'on appelle ici disciple. Ça place le contexte parce que lorsqu'on veut parler de disciple, on doit se souvenir qu'il faut parler aussi de maître. Qui est-ce que ce disciple est-il en train de suivre? Et dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, vous trouverez que l'idée de disciple est liée à l'idée de maître. L'idée de disciple est lié à l'idée de rabbi, le rabbin qui enseigne à ses suiveurs, à ses disciples. Alors, les disciples disent « Rabbi, où demeures-tu ? » Et il dit « Venez et voyez ». Et ils deviennent ainsi, ils restent chez lui ce jour-là. Et c'était environ la 10e heure. Chaque détail à l'intérieur est très, très intéressant. Vous allez comprendre ça au fur et à mesure que nous évoluons. Mais que signifie ce mot-là, « rabbi » ? Bien sûr, « rabbi ». Ce n'est pas vraiment du français, là. Rabbi, ce mot signifie maître. La Bible l'a déjà décrit. Rabbi signifie maître. Que faisait un rabbi? Que faisait un rabbi, un maître? Aujourd'hui encore, il existe des rabbins, des enseignants qui ont comme derrière eux une école où ils enseignent plusieurs disciples. Mais ils avaient généralement quatre rôles. Premièrement, un rabbi était là pour donner des instructions verbales. Il enseignait, il parlait. Deuxièmement, c'était pour poser des actions qui sont une école. Il vit une vie qui enseigne. Troisièmement, c'était poser des gestes qu'il devait expliquer. Mais ces gestes-là étaient des gestes mystérieux. Il posait des gestes symboliques, des gestes qui parlent. Et en fin de compte, il devait être eux-mêmes un modèle ou un exemple de vie. Un exemple personnel, parce que les disciples, comme nous venons de lire, vont venir jusque chez toi, jusque là où tu habites. Donc, ils doivent vivre ton quotidien pour apprendre qui tu es réellement. Si nous avons défini rapidement Rabbi, juste pour qu'on place le contexte afin que nous comprenions le mot « disciple ». Avançons maintenant à la découverte de ce mot-là dans le Nouveau Testament. Vous le savez bien que le Nouveau Testament est écrit en grec, en grande partie d'ailleurs. Les restes, ce sont quelques apparitions à gauche, à droite, des mots et des noms de personnes en hébreu, en araméen. Mais le Nouveau Testament est écrit en grec. Donc, il dit « disciple », dit le mot grec « mathétès ». Et ce mot-là signifie « celui qui s'engage à apprendre par l'instruction d'un autre ». Celui qui s'engage à apprendre. Je répète, celui qui s'engage à apprendre. On ne les draine pas de force. Il y a un sens d'engagement. Il a décidé d'apprendre. Comment? Par l'instruction d'un autre. Les synonymes sont élève, étudiant, pas dans le sens des études aujourd'hui des universités, mais d'apprenant. Celui qui vient apprendre, qui n'est pas là pour l'information, mais qui est là pour qu'on l'accompagne dans la pratique. Vous savez, chez nous, là où moi j'ai grandi, on a jusqu'aujourd'hui deux types de personnes qui ont dans le métier de mécano. Les mécaniciens pour des véhicules. Vous avez ceux qui vont à l'école, à l'institut technique. Ils apprennent jusqu'à avoir leur bac. Et vous avez ceux qui vont au coin de la rue et voir un vieux qui arrange souvent le mécanicien du quartier, qui arrange souvent les véhicules de gens. Alors, le jeune homme n'a pas vraiment grand boulot, il n'a pas vraiment beaucoup, un niveau d'études très, très élevé. Il devient collé à ce bon mécanicien, qui lui aussi n'empêche, n'a pas nécessairement été à l'école pour ça. Mais l'expérience sur le terrain, à force d'arranger, de fixer des véhicules. Ce qui se remarque, je ne sais pas pour vous, mais chez nous, c'est très, très remarquable. Le jeune homme qui vient de l'école, de l'Institut national de technique, ainsi de suite, il sait dessiner les choses sur le papier, il sait bien faire des théories. Mais celui qui est attaché à ce mécano, matin, midi, soir, soit-il son père ou son frère ou juste un aîné de la rue, matin, midi, soir, il vient à ce lieu, on lui apprend comment arranger des choses, comment bouger des choses. Vous savez, j'étais très étonné un jour où j'ai appris que dans un véhicule, il y avait quelque chose qu'on appelle boudin. Franchement, ça m'avait beaucoup étonné. C'est en métal en plus. Les temps ont prouvé que celui qui apprend, l'apprenti, l'apprenant, celui qui est coaché, supervisé à la tâche au quotidien, acquiert rapidement de l'expérience. Mais celui qui vient avec tellement de théories, c'est bien tout ce qu'il a appris. Mais s'il n'a pas assez de contact avec le fameux véhicule, toute sa connaissance théorique n'amène pas très loin. Un disciple est beaucoup plus, non pas celui qui vient de l'université, mais cet autre jeune homme qui est resté collé au mécano matin, midi, soir, qui a vécu avec lui, qui reste avec lui, qui travaille, à qui on demande de faire même des heures supplémentaires parce qu'il doit apprendre le métier sur terrain. C'est ça un disciple, c'est ça un mathétès. Aujourd'hui, puisqu'on se donnait ce devoir d'apprendre qui est-ce qu'un disciple et qu'est-ce que ça signifie être un disciple, j'aimerais prendre ça en donnant des grands principes qui étendent en fait la définition du mot mathétès. Premièrement, disciple signifie imiter activement la vie et l'enseignement du maître. Imiter activement la vie et l'enseignement du maître. Lisons Éphésiens chapitre 5, du premier au second verset. Vous allez trouver quelque chose de très intéressant. Éphésiens chapitre 5, 1 à 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Paul est en train de parler aux chrétiens d'Éphèse. Il leur dit « Devenez donc des imitateurs, devenez donc les imitateurs de Dieu. » Le mot « imitateur » là-bas vient d'une racine en grec qui signifie « mime ». Vous savez, mimer, les gens qui font le mime. Littéralement, ça dit ceci « Faites comme les enfants font lorsque leur papa n'est pas là, en tentant de faire ce qu'ils font. » Je vous donne un exemple. Souvent, quand je sors, j'ai 4 enfants et j'ai 3 filles et un garçon. Et quand on sort ensemble, on va se promener, ma femme et moi et les enfants. Les filles, elles sont derrière leur maman. Et surtout quand on veut monter des marches ou on veut prendre une ruelle toute droite. Je vois comment mon fils tente de synchroniser ses pas aux miens. Il aime faire ça tout le temps. Moi, je marche inconsciemment, mais je le vois en train de s'assurer que ma droite soit sa droite, ma gauche soit sa gauche. Il veut qu'on marche comme des jumeaux. Une, deux, une, deux, une, deux. C'est ça les termes qu'il y a ici. Mimer le père. Mais plus encore, je me souviens quand on était à l'école, on avait toujours un ami, je ne sais pas pour vous si vous connaissez cet ami, peut-être que c'est vous l'ami en question. Mais on avait toujours un collègue de classe qui, lorsque l'enseignant n'était pas là, il se pointait devant à côté du tableau et il faisait les gestes. Surtout les enseignants qui portaient des lunettes. Alors, il amenait des lunettes, il les baissait là, et il prenait les notes. Il nous faisait tous rire en imitant notre prof de philo ou quoi. Un tel Mbouma, tu sais, je pense que tes notes ne sont pas claires. C'est ce qu'on appelle mimer ici. Répéter, copier, faire tout de son mieux pour ressembler au maximum au Père, à celui qui est notre modèle. Et donc, un disciple, c'est celui-là. Je ne vais pas inventer des choses. Ce que Jésus est déjà parfait. Je vais juste me synchroniser à Jésus. Si là où il a bougé, je bouge. Là où il a... Pourquoi je tenterais de dire oui là où Jésus a dit non? Pourquoi je tenterais de dire non là où Jésus a dit oui? Une vie est déjà tracée. Je vais juste imiter activement la vie et les enseignements du maître. C'est ça ce qu'on appelle un disciple. Mais deuxièmement, le mot disciple signifie celui qui est là pour apprendre à travers le quotidien du maître. Apprendre à travers le quotidien du maître. Vous vous souvenez du texte qu'on a lu au début? Les disciples ont dit à Jésus, « Rabbi, où demeures-tu? » Pas où enseignes-tu? Pas à quelle est ton église? Bien sûr qu'en fait, les églises n'existaient pas à l'époque. Mais ce qui les intéresse le plus, c'est aller découvrir le quotidien de Jésus. Là où ils vont le voir de façon naturelle, primaire, au quotidien. Il ne faut pas que nous puissions le connaître que quand il viendra sur une montagne en train de parler et tout le monde le voit dans tout le wow. Non, nous voulons savoir où il mange, comment il se réveille un matin, que dit sa famille sur lui, comment il fait ses travaux ménagers. Regardons, Jean chapitre 2, versets 1 à 2. Un très beau texte, Jean chapitre 2, versets 1 à 2. Je lis. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Trois jours après tout ce qu'on a lu au début, souvenez-vous, on venait de lire Jean au début, là. Jean chapitre 1. Allez, les disciples ont commencé maintenant à fréquenter Jésus. Trois jours après, la mère de Jésus est invitée à une fête de mariage. Vous savez, à l'époque, les fêtes de mariage pouvaient faire une semaine. C'est pas juste un jour à la va-vite. Ça peut prendre une semaine. Et apparemment, cette personne était apparentée à la mère de Jésus. Elle invite Jésus, elle invite la mère de Jésus et ses disciples. Waouh! Disciples? Oui. Vous allez à la fête familiale? C'est pas privé, ça? Mes amis, j'aimerais vous dire, vous ne pouvez pas vraiment penser aux disciples là et continuer à faire traîner dans votre pensée l'idée d'une vie privée. On va y arriver. Mais ici, un disciple vient apprendre au quotidien du maître. On ne se donne pas une école pour venir apprendre, non. Ça, c'est certainement le discipulat collectif, ça arrive, ces niveaux-là. Mais la définition du mot disciple sous-entend que le maître doit ouvrir son quotidien pour accueillir le disciple. Il vient quand tu manges. Il te dérange quand tu es en famille. Il est là dans les réunions de famille. Le disciple fait partie de ta vie. Le disciple devient, il te suit, il devient ton ombre. Parce qu'on n'apprend pas seulement les choses qu'on nous dit d'apprendre. On apprend aussi par silence des choses qu'on ne nous a pas dites. Je me souviens quand j'ai commencé à apprendre l'œuvre de Dieu, à apprendre le ministère. J'ai eu la grâce de Dieu d'apprendre le ministère près de personnes merveilleuses. Et je me souviens que lorsque on nous apprenait comment faire les ABC de la foi, quoi, fallait comment aller gagner les âmes, comment évangéliser. Je me réveillais tôt le matin, j'allais à l'école, et puis quand je revenais de l'école, je lisais ma Bible, et puis la prochaine chose, j'allais à ce qu'on appelait chez nous à l'époque des permanences. C'est-à-dire, il y avait des petites maisons à l'endroit où se trouve l'église, où des frères et des sœurs, généralement des frères, qui étaient consacrés, qui n'avaient ni le port où aller, habitaient à l'intérieur et passaient toute la journée, tout le temps à la prière. Et j'arrivais là-bas, on parlait de tout et de rien, et puis on se plongeait dans la prière, on priait, et puis on se levait, on allait évangéliser, on allait visiter les âmes, on préparait à manger ensemble, et puis on jouait au football. J'ai appris tellement de choses de ces petits moments-là que j'en ai appris à la chair. Être un disciple, c'est accepter d'oublier la notion de la vie privée et de se dire que Dieu va m'accrocher à la vie de quelqu'un d'autre pour que je puisse apprendre. Et vous n'apprendrez pas qu'à la chair, mes amis. On dirait que la chair est devenue l'un des moyens qui empêche de former les disciples. Parce que ça devient plus des prédications que de formation. La prédication à sa place, ne prenez pas mal ce que j'essaie de dire. J'essaie seulement de dire que, à force de protéger nos vies privées, nous avons tué quelque chose dans le processus du discipolat. Jésus, ils lui ont demandé où tu habites. Il a dit venez. Venez, voyez. Oui, certainement, il y a l'élément culturel, on en parlera plus tard. Mais la vérité est que le mot disciple signifie celui qui vient pour apprendre dans le quotidien du maître. Le maître ne va pas faire un scénario et quand il a fini de le préparer, il dit bon, « Ok, appelez mes disciples, ils vont apprendre. » Non, les disciples vont apprendre de tout et de rien. Vous savez, imaginez que les disciples de Jésus n'étaient pas avec lui et qu'ils venaient que quand il devait enseigner. La Bible ne serait pas pareille. La Bible n'aurait pas été écrite comme ça. Non, on manquerait de moments, par exemple, où la Bible dit « Jésus souffre, Jésus s'est mis à rire. » Il tressaillit de joie et dit « Je te rends grâce, Père, que tu aies caché ces choses aux sages. » On aurait manqué des moments. On aurait manqué des moments où Jésus pleure. Waouh! Jésus pleure. Et la Bible dit « Jésus pleura ». J'aime bien le fait que c'est devenu le verset le plus court de la Bible. C'est chargé d'émotions. Jésus pleura. On aurait manqué beaucoup d'épisodes. On aurait manqué le fait de savoir que les disciples avaient l'habitude de savoir comment Jésus rompait le pain. Quelqu'un disait, on dirait que Jésus rompait souvent le pain parce que les disciples d'Emmaüs, à ce moment-là, c'est vrai que c'était une révélation, mais à ce moment-là de rompre le pain, qu'ils se sont rendus compte depuis tout ce temps, et c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte que oh, c'est Jésus. Alors il disparaît. Il rompait le pain avec lui. Imaginez-vous qu'il ne vivait pas le quotidien avec Jésus. Comment allions-nous avoir la cérémonie de la Sainte Cène? Parce que ça, c'était manger à table. Il mangeait, il fêtait ensemble. Il a demandé à certains disciples de les précéder, d'aller préparer l'endroit où ils allaient avoir la Sainte Cène. Ils étaient à table. La Bible dit que quand ils étaient souvent à table, ce n'était pas la seule fois. C'était l'heure de dormir. Jésus dit, bon, vous dormez là-bas, j'avance. C'est-à-dire qu'ils allaient même à des endroits où ils pouvaient dormir ensemble. Ils voyageaient ensemble. C'est ça la vie de disciple. Le disciple accède à la vie du maître et apprend dans son quotidien. Troisièmement, que signifie un disciple? Nous sommes ici qu'en train de d'abord clarifier que veut dire un disciple en se basant seulement sur les multiples définitions ou explications de la définition du mot mathétès en grec. Disciple, c'est être un étudiant assidu de la doctrine du maître et de son paradigme de vie. Je vais répéter ça. Vous devenez un étudiant et alors assidu. De quoi? De la doctrine du maître ainsi que de son paradigme. Doctrine, paradigme. Doctrine parle ici de son enseignement, comment il présente sa conception de Dieu. Paradigme ici, vous devez juste savoir que c'est une représentation du monde, une manière de voir les choses, c'est ce qu'on appelle un paradigme, un modèle cohérent du monde qui repose sur un fondement défini. C'est un système de pensée qui répond aux questions existentielles de la vie et qui devient le schéma de raisonnement et les procédés mentaux d'un individu. C'est un peu comme son jeu de pensée. C'est ce qu'on appelle un paradigme. C'est-à-dire, il a déjà un jeu de pensée qui fait 1, 2, 3, 4. Ça a déjà une forme. Quel que soit ce qui vient dans sa tête, ça fera 1, 2, 3, 4. Il y a déjà des convictions qui sont établies comme des piliers qui forment le système de pensée de l'individu. C'est ce qu'on appelle un paradigme ici. Alors, un disciple, ce qu'il vient apprendre auprès du maître, c'est sa conception de Dieu, mais aussi à partir de cette définition de Dieu, comment de là le maître voit le reste du monde. Que signifie tout ce qu'il y a autour de lui par rapport à ce qu'il comprend et voit de Dieu. Et c'est ça ce que les disciples ont fait en allant chez Jésus. Ils ont commencé à se rendre compte que Jésus parlait de Dieu comme son Père. Et la vision que Jésus avait de la vie, c'est toute cette vision qui s'est promenée dans la vie des disciples. Jésus était là en disant, bon, il faut que je meure. Il parlait de sa mort comme si c'était un gain, c'était une bonne chose qu'il meure. Mais regardez, les disciples sont devenus comme lui. Lisons Romains chapitre 12, versets 1 à 2. La Bible le dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Préparez-vous. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Paul est en train de dire ceci. Ne regardez pas ce monde, soyez transformés. N'ayez pas le paradigme du monde, ayez le paradigme de Christ. Comment vous l'avez? Par la transformation qu'apporte la parole de Dieu. Lui-même, il avait. Regardez Paul en train de parler à Timothée. 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8. 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8. Car pour moi, j'essaie déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à ceux qui auront aimé son avènement. Un homme vivant parle de sa mort comme un événement merveilleux. Il dit, pour moi, il y a une couronne. Je n'ai pas couru en vain, il y a une couronne que j'attends et je pense que mon temps est arrivé, que ma vie serve de libation, que je souffre, que je verse mon sang pour la cause de l'Évangile et de la volonté de Dieu et ma grande joie. Ça, c'est raisonner comme Jésus. Ce n'est pas en vain qu'on a fini par les appeler chrétiens, ceux qui font les choses comme le Christ. Ils ont le même paradigme que Jésus. Ils ont le même raisonnement, la même façon de réfléchir. Quand vous rencontrez les disciples de quelqu'un, vous avez l'impression qu'il a tout avalé de lui. Le monde aime même utiliser le mot fanatique. Il est devenu fanatique. Il n'est pas devenu fanatique dans ce cas-ci. Il a adopté son paradigme. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Avez-vous adopté le paradigme de Jésus? Ou bien, quand il s'agit de l'argent, vous réfléchissez encore comme... comme Karl Marx. Ou quand il s'agit de santé, vous avez un autre raisonnement. Est-ce que vous regardez les choses comme Jésus le regarderait? Un jour, Pierre arrive à un endroit, quelqu'un malade, mort d'ailleurs. On vient lui dire, Pierre, Tabitha est mort. Viens le ressusciter. Il arrive. Oh Pierre, la Bible dit, Pierre se tourne et prie d'abord. Après avoir prié, il tourne vers le corps. Et il dit, Tabitha, lève-toi. Il a le paradigme de Christ. Il sait, quand Jésus m'a mené dans ces endroits, il ne priait pas sur mon Père, il se tournait vers le corps et il disait au corps. Je me souviens, la fois, il m'a amené chez cette jeune fille, il a dit, Talitha Kumi, il faut que je fasse comme il faisait. C'est ça un disciple. Le modèle est déjà placé. Les voies sont déjà tracées. La vie chrétienne est simple lorsqu'on devient un vrai disciple de Jésus. Celui qui veut être un étudiant assidu de sa doctrine, suivre son enseignement, mais aussi bâtir son raisonnement d'après celui de Jésus. Le monde nous pose beaucoup de questions. Que faut-il dire de l'Internet? Même sur Internet, il faudrait être comme Jésus aurait dû l'être. Que faut-il dire de la télé? Que faut-il dire de comment s'habiller? Que faut-il dire? Il y a tellement de choses qui nous entourent. Mais un chrétien ne va pas là dehors juste se conformer. Il le fait comme Jésus l'aurait fait. Et il n'a pas peur d'être différent. Pourquoi? Parce que son paradigme est bâti par celui de son maître, qui est Jésus-Christ. Parlons de paradigme de son maître. Ici, les quelques temps que j'ai fait déjà à venir servir avec tous mes frères et sœurs ici de EMCI TV, j'ai découvert une chose, une grande passion pour Jésus. Vous savez, quand vous regardez deux fois EMCI de loin, vous dites... Certainement, ils ont peut-être 2, 3, 4 moyens déjà, et quand ils font des campagnes, c'est juste pour ajouter à ce qu'ils ont. Je vous assure que c'est tout ce système qui bénéficie au corps de Christ fonctionne vraiment avec vos dons. C'est principalement ça qui fait booster cette œuvre. Moi, je dois être très reconnaissant parce que je suis dans ce plateau à cause de tous les donateurs qui ont donné les autres fois, pour lesquels j'aimerais vraiment dire merci du fond du cœur. Maintenant, nous nous sommes lancés à une autre campagne pour 20 000 partenaires mensuels. Chaque mois, il s'agit de prendre un engagement de donner chaque mois juste la somme de 35 euros. Seulement 35 euros chaque mois. Et je peux vous dire qu'en arrivant ici, je vois ce que fait ces contributions. Et ces contributions, vous ne le savez peut-être pas, mais toute l'œuvre qui est accomplie ici est bâtie sur ces contributions. J'ai vu le sérieux qu'on accorde à chaque don. J'ai vu le sérieux qu'on accorde à chaque moindre somme qu'on a entre les mains. On l'investit pour le royaume. Et j'ai vu des hommes et des femmes déterminés à servir Jésus. Les disciples de Christ, tout ce qu'ils ont dans leur tête, c'est comment mettre tout cela pour l'avancement du royaume. Alors, je vous défie, vous aussi, à devenir disciple avec nous en participant à cette collecte. Là, sur l'écran, comme vous pouvez le voir, il y a déjà le QR code pour que vous puissiez scanner et aller avoir plus de détails sur comment vous allez prendre votre décision de donner tout ce mois, tout ce qu'on attend de vous, 20 000 personnes, pourquoi pas, donner 35 euros chaque fin du mois. Parlez-en à un ami, celui à qui tu as demandé de voir Teach ensemble avec toi. Et ce serait une bonne chose que vous puissiez contribuer. Et vous verrez comment on fera encore plus. Parce qu'il y a tellement de choses qui bouillent dans notre cœur pour édifier, fortifier le corps du Seigneur, mais aussi gagner des âmes et les amener à Christ. Mais pour aujourd'hui, voilà ce que j'avais à vous dire. N'oubliez pas, nous venons de commencer une nouvelle série qui s'appelle « Comment devenir disciple de Christ ?» Et aujourd'hui, on s'est posé la question, c'est quoi un disciple ? Et pour cela, j'ai dû donner trois définitions ou trois façons de voir justement le mot « mathetes » en grec qui signifie « disciple ». Et je vous ai rappelé que la pensée des disciples est dans un contexte de « rabbi » et « disciple », « maître » et « disciple ». Pour moi, je vous vois déjà de demain. Et demain, j'aimerais déjà vous mettre l'eau dans la bouche parce que nous allons parler des caractéristiques d'un disciple. Et j'en ai prévu combien? Tenez-vous bien, 15 caractéristiques. Ça va être intéressant. Pour l'instant, voyons-nous demain et prions que le Seigneur Jésus nous donne la force de continuer sa mission. Let's teach! Grandissons ensemble. Dieu vous bénisse.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.